Le cours de phytotechnie spéciale est dispensé en troisième année de licence d'agronomie à l'Université de Chang, Faculté des sciences agronomiques et de l'environnement, pour l'année académique 2025-26, par le Dr Issi Nagoubli. Introduction générale. De phyton, plante, et techné, l'art, la phytotechnie est l'ensemble des techniques visant à faire produire par le sol sous un climat donné, le maximum des végétaux utiles dans les meilleures conditions économiques et écologiques. Quand elle s'applique à la production des différentes espèces, on parle de phytotechnie spéciale. En matière de développement agricole, l'accroissement de la production est souvent la préoccupation prioritaire alors que la productivité a ses limites. Or, dans le contexte de l'agriculture durable, la durabilité se réfère principalement à la capacité de rester productif tout en maintenant la base des ressources. Elle consiste à gérer de manière efficace les ressources utilisables par l'agriculture dans le but de satisfaire les besoins changeants de l'être humain, tout en veillant au maintien voire à l'amélioration de la qualité de l'environnement ainsi qu'à la préservation des ressources naturelles. L'agriculture est durable si elle est écologiquement saine, économiquement viable, socialement équitable, humaine, adaptable. Définition de quelques mots. La jachère, c'est l'état d'une terre labourée qui n'a pas été ensemencée pour la laisser se reposer. C'est un moyen d'améliorer simultanément le degré de fertilité des terres fatiguées et leur capacité de résistance à l'érosion. L'agriculture itinérante, c'est une forme d'agriculture où la fertilité du sol est entretenue en faisant la rotation des parcelles. L'agriculture biologique, c'est la création de sols et plantes saines par le recyclage des éléments contenus dans le sol sans avoir recours aux engrais chimiques. L'agriculture de subsistance, c'est une grande partie consommée par le producteur. L'agriculture écologique, ou écoculture, l'objectif est d'améliorer l'environnement ou de réduire la nuisance. La monoculture, la polyculture. La monoculture consiste à mettre en culture une seule culture sur toute la surface d'une exploitation agricole. C'est la culture répétée d'année en année d'une même culture sur la même parcelle. Quand il existe deux ou plus de deux cultures, on parle de polyculture ou de culture mixte. Là seulement, c'est la pratique qui consiste à diviser la surface agricole utile d'une exploitation en autant de parcelles qu'il y a de cultures à mettre en place. Chaque partie de terre soumise à la rotation est appelée sol. La succession des cultures, c'est une pratique qui consiste à changer chaque année, ou toutes les N années, l'espèce cultivée dans une parcelle. Si la même culture revient de manière cyclique sur la même parcelle, on parle de rotation des cultures. Le choix de la succession des cultures sur une parcelle doit suivre une logique. La tête de rotation est la première culture mise en place au cours d'une rotation de culture. En général, la tête de rotation est la culture la plus exigeante ou la culture prioritaire. Dans une rotation de culture, l'horizon du sol exploré par le système racinaire, la sensibilité aux parasites et aux mauvaises herbes, le travail du sol nécessaire à la mise en place de chaque culture doivent être pris en compte. Dans une succession de cultures, on doit aussi penser à l'effet du précédent et la sensibilité du suivant. L'itinéraire technique, c'est la suite chronologique de l'ensemble des actes techniques, du travail du sol à la récolte, appliqué à un peuplement végétal. Le calendrier des opérations et le niveau d'application sont bien définis dans un itinéraire technique. L'agriculteur doit faire un choix à partir d'une hiérarchisation des objectifs à réaliser, c'est-à-dire il doit placer les opérations par ordre de priorité. Les principales étapes du cycle de végétation. Germination et la levée. La germination de la graine est la première étape du cycle de végétation. Elle consiste à la sortie de l'embryon ou germe de la graine hors des téguments. La germination est donc le passage de la plantule de la vie ralentie à la vie active. Pour que cette germination se réalise, il faut que la graine remplisse des conditions externes et internes. Les influences externes sont l'eau, l'air et la chaleur. En effet, c'est l'eau qui, traversant le tégument et pénétrant dans les cellules, déclenche le développement du germe et les réactions biochimiques qui l'accompagnent. C'est l'air qui les permet, puisque tout tissu végétal respire. C'est enfin la chaleur qui les assure. La mise en route et l'activité sont fonction de la chaleur. Les conditions internes, ce sont les conditions liées à la graine. La graine doit être vivante, bien constituée, bonne réserve alimentaire, bien mûre, et enfin, il faut que la semence ne soit pas vieille. L'ensemble de ces quatre conditions internes constitue la faculté germinative d'une graine. On exprime la faculté germinative par le nombre de semences qui ont germé normalement pour 100 semences placées dans les conditions normales de germination. L'énergie germinative, c'est la rapidité de germination. On dit que l'énergie germinative est suffisante quand plus de la moitié des semences sont germées dans le tiers du temps nécessaire à la germination. Vigueur à la levée. Plusieurs facteurs peuvent occasionner collectivement ou individuellement une faible vigueur à la levée. Parmi ces facteurs, on peut citer l'excès ou le manque d'eau, une faible fertilité du sol, l'acidité du sol, une température trop élevée ou trop basse ou une brûlure occasionnée par le vent de sable. Tallage. C'est la période à laquelle le jeune plant émet des tiges secondaires appelées tales. Une densité de semis trop forte inhibe le tallage. Ce dernier peut être encouragé par manque de compétition entre les plantes, favorisé par l'apport de la fumure azotée, stimulé par la destruction ou la mort du bourgeon de la tige principale occasionnée par les insectes ou les maladies ou bien un passage par le rouleau. Il s'agit là d'une réponse hormonale et d'un mécanisme de survie de la plante. Le tallage est aussi une caractéristique variétale. Certaines variétés de sorgho ne tallent pas montaison. C'est la période où la tige se dégage du plateau de tallage et émet des nœuds et entre-nœuds. Cette phase est aussi caractérisée par la différenciation et le grossissement des inflorescences, épis ou paniculées, qui montent dans les gaines foliaires, partie basale de la feuille qui entoure plus ou moins complètement la tige sur une longueur variable. La montaison se termine à la fécondation. Une faible fertilité du sol, le stress hydrique, les dégâts causés par les insectes et les maladies peuvent retarder l'élongation des entre-nœuds, ce qui résulte à l'obtention d'une plante courte. Florhyson. C'est un stade facilement observable. Il permet d'estimer le cycle de la plante. La floraison est le début de la phase reproductrice avec l'apparition des organes reproducteurs. Ce stade s'observe quand plus de la moitié des plantes d'une ligne ou d'une parcelle ont la moitié de leurs épis, chez le blé, ou paniculé, chez le sorgho, en fleurs. Newhaison. Transformation de la fleur fécondée en fruit. Début de la formation du fruit. Fructification. Elle correspond à la formation du fruit qui va contenir les graines. Maturité de la graine. La graine est issue du développement de l'ovule fécondé par l'organe mâle. Dans le fruit, elle prend sa forme et sa taille définitive. Sa maturité passe par la maturité de récolte et la maturité physiologique. Groupe de plantes. Les plantes saisonnières ne vivent que durant une saison ou durant quelques mois avant de disparaître en ne laissant que leurs graines. Exemple. Maïs, riz, sorgho, haricot, arachide. Les plantes bisannuelles dont le cycle de végétation s'échelonne sur 2 années. La première année, la graine donne une plante accumulant des réserves dans un organe, racine, tige, feuille. La deuxième année, les réserves accumulées vont permettre, après le froid hivernal, d'obtenir les graines servant à multiplier la plante. Exemple, l'oignon. Les plantes pérennes ou vivaces restent durant de nombreuses saisons sur le terrain. Elles ont la particularité d'avoir une partie de leur cycle de végétation qui se renouvelle tous les ans durant plusieurs années. À partir de la graine, il se forme une plante qui, arrivée à un certain stade de croissance, va produire des graines ou fruits tous les ans. Chapitre 1. Les céréales. Une céréale est une plante cultivée principalement pour ses grains utilisés dans l'alimentation de l'homme et des animaux domestiques, souvent moulus sous forme de farine, mais aussi en grains et parfois sous forme de plantes entières, fourrage. Les grains des céréales sont des fruits, appelés caryopses. Le terme céréale désigne aussi spécifiquement le grain de ces plantes. Leur nom vient du latin cerealis, qui fait référence à Cérès, déesse romaine des moissons. Dans la classification mondiale des céréales, on peut avoir dans l'ordre, en termes d'abondance de production, le blé, le riz, le maïs, l'orge, le sorgho et le mil. Selon la FAO, la norme officielle de besoins céréaliers annuels pour le Tchad est de 159 kg par an et par personne, mais le Tchad ne dispose que de 113 kg par an et par personne, bien inférieur à la norme. Selon le nutritionniste Thierry Soukard, l'intérêt nutritionnel des céréales repose sur 4 grandes raisons essentielles. Les céréales contiennent des glucides et fournissent de l'énergie qui permet d'entretenir les besoins de l'organisme de façon continue. Elles ne font pas grossir mais au contraire préviennent l'obésité. Les céréales contiennent également des acides aminés très variés. Il suffit de 100 g de céréales pour couvrir les besoins quotidiens d'un adulte en acides aminés essentiels. Les céréales complètes contiennent aussi des lipides. Les 3/4 de ces lipides sont des acides gras insaturés, dont l'intérêt diététique est aujourd'hui parfaitement reconnu, spécialement en ce qui concerne la prévention d'un excès de cholestérol et de ses graves conséquences sur le plan cardiovasculaire. Les céréales complètes contiennent un très grand nombre d'éléments majeurs qui participent au bon fonctionnement de l'organisme. Des vitamines, notamment des vitamines de groupe B et de la vitamine, et des substances minérales et des oligoéléments. En dehors de leurs remarquables avantages nutritionnels, Les céréales alimentaires possèdent toute une valeur énergétique importante puisque 100 grammes apportent en moyenne 330 à 385 kilocalories. Le sorgho, ou sorghum bicolore, est une céréale du genre sorghum, de la famille des poacées, ex-graminées, et de la tribu andropogonée. Il est difficile de déterminer quand et où il a été domestiqué. Cependant, il peut être admis qu'il est originaire de l'Afrique. Le nom sorgho vient du latin surger signifiant se lever. Plusieurs types sont cultivés au Tchad, mais Bezo rapporte les grands groupes suivants. Type hâtif, cultivé pour la soudure, derrière les maisons, ils sont de faible qualité, le grain est farineux et le rendement peut élever souvent par suite des dégâts causés par les oiseaux. Type d'hivernage, c'est une variété à cycle variable, généralement semée aux premières pluies, en mai, et récoltée en octobre-décembre. Les qualités du grain varient suivant les espèces ainsi que les rendements. Ils sont cultivés à peu près en proportions égales les types à bière et les types pour la nourriture. Type repiqué sur terres argileuses, après le retrait des eaux d'inondation. Les façons culturales sont réduites, il n'y a pas de ouage pour préparer le terrain, et l'entretien se résume. Généralement à deux sarclages. Le sorgho, comme la plupart des végétaux supérieurs, est une plante autotrophe. Il possède un métabolisme en C4 lui conférant une bonne efficacité synthétique. Son système racinaire est très développé et muni de nombreux poils radiculaires. Le système racinaire peut atteindre 110 à 130 cm de profondeur. Quant à la tige, elle peut faire 0,5 cm à 5 cm de diamètre et 0,5 à 5 m de haut. Les feuilles sont distribuées de façon variable le long de la tige. Certaines variétés de sorgho ont des poils de taille microscopique sur la face inférieure des feuilles. Leur présence est intéressante car elle est associée à la résistance des jeunes plantes à la mouche du pied. La graine de sorgho est un caryopse. On évalue souvent le poids du caryopse avec des échantillons de 1000 graines qui peut peser 60 à 85 grammes. À maturité, un grain de sorgho mesure 3,5 à 5 mm de long et 2,5 à 4,5 mm de large. Le sorgho est une plante tropicale qui s'adapte à de nombreux milieux. Ses besoins en eau varient dans une fourchette de 350 mm à 750 mm en fonction de la longueur du cycle, de la masse du couvert végétal et de la demande évaporative. Pour assurer un rendement maximal du sorgho, il faut que la plante puisse consommer de façon régulière 400 mm pour un cycle court, 700 mm pour un cycle long. Mais compte tenu des différentes pertes par percolation, notamment le ruissellement et l'évaporation, ainsi que les possibilités réelles d'absorption du système racinaire du sorgho et la capacité de rétention du sol, l'offre en eau due aux précipitations doit être supérieure d'au moins 30 à 40% aux besoins de la plante. Il faut donc une pluviométrie bien répartie située entre 500 et 600 mm pour une variété de cycle court, 650 à 800 mm pour une variété de cycle moyen, 950 à 1010 mm pour une variété de cycle long si l'on veut assurer le rendement optimal dans des conditions de bonne fertilité des sols. Les besoins en eau du sorgho augmentent pendant le cycle pour atteindre un maximum à la floraison, environ 6 à 7 mm par jour. Une période trop pluvieuse pendant la maturation peut réduire la qualité de la production ou même casser les tiges. La croissance du sorgho est réduite lorsque la température ambiante est inférieure à 20 degrés Celsius. L'optimum de croissance se situe vers 33, 34 degrés Celsius, avec une humidité maximale du sol. Le développement floral et la formation des grains se déroulent normalement jusqu'à 40, 43 degrés Celsius. La fécondation est réduite au-delà de 40 degrés Celsius avec une humidité relative de 30%. Généralement, face à un déficit hydrique du sol, les activités physiologiques du sorgho sont réduites et peuvent être nulles si cette contrainte dure longtemps. Le sorgho résiste plus à l'excès d'eau que le maïs. Le sorgho est cultivé sur des sols variés et supporte une large gamme de pH. La meilleure situation est celle d'un sol sablo-argileux, profond, bien drainé. La fertilité d'un sol n'étant pas le seul gage de la réussite d'une culture, il faut aussi que l'état et le mouvement de l'eau et de l'air dans le sol ainsi que le régime thermique du sol soient convenables. Le sorgho présente une meilleure tolérance que le maïs au sel et à l'aluminium. Des expériences ont montré que le pivot de la fumure est l'azote. Cependant, l'azote n'est complètement valorisé que si les quantités de phosphore disponibles pour la plante sont suffisantes et cela dépend de la richesse du sol en cet élément. C'est ainsi qu'on considère que toute fertilisation minérale du sorgho doit être à base d'engrais binaires NP. Des études ont montré que l'utilisation de l'eau par la plante dépend du niveau d'alimentation en azote du sorgho. Néanmoins, pour éviter que les autres éléments nutritifs deviennent des facteurs limitants à cause des antagonismes, il faut avoir un sol équilibré. Ainsi, Guigou expérimentant sur la mobilisation des principaux éléments sur les parties aériennes du sorgho au nord du Cameroun affirme que le potassium est le premier à être mobilisé, suivi dans l'ordre de l'azote, du magnésium, du calcium, du phosphore et enfin du soufre. Les besoins en éléments minéraux sont généralement déterminés par l'analyse de la matière sèche totale d'une plante ou par l'analyse foliaire le plus souvent. Cette analyse permet de quantifier les différents éléments présents et de prévoir pour un type de sol donné les doses d'engrais minéral à apporter pour compenser les exportations des plantes. Au Tchad, les activités agricoles s'organisent autour d'un calendrier annuel en lien étroit avec les conditions climatiques. Il n'y a pas de calendrier cultural fixe car le semis dépend de l'eau de la pluie qui peut commencer en mai ou quelquefois en juillet. Quant au reste des étapes, les descriptions faites par Louise et Al en Côte d'Ivoire et Adeline au nord du Cameroun sont à retenir. Préparation du sol et semis. Le semis se fait après un labour de 30 à 40 cm de profondeur après une bonne pluie. On peut aussi semer sans labour préalable. Il faut 10 à 15 kg de semences par hectare. On sème sur les billons si le champ est labouré à la charrue ou au tracteur. Quand il n'est pas labouré, un écartement qui peut varier de 50 cm entre les lignes et les poquets ou 80 cm entre les lignes et 50 cm entre les poquets doit être suivi. 5 à 10 graines par poquet sont mises à une profondeur de 2 à 3 cm. 2 à 3 semaines après le semis, il faut démarrer à 3 plants par poquet puis repiquer les pieds issus du démarrage dans les poquets vides après une bonne pluie, 30 à 40 mm. Fertilization. Pendant la préparation du sol, il convient d'apporter un engrais de fond, NPKSB, 15, 15, 15, 6, 1, à la dose de 150 kg par hectare. Apporter 50 kg d'urée par hectare 45 à 50 jours après le semis, l'appliquer à 5 cm au moins des plants. À défaut d'engrais minéral, apporter du fumier de ferme à la dose de 15 tonnes par hectare pour espérer avoir 1,3 à 2 tonnes par hectare. L'engrais minéral et le fumier peuvent être appliqués à la fois également. Desherbage. Le désherbage est une étape très coûteuse en énergie et en temps. Il s'agit d'éliminer les mauvaises herbes qui peuvent occasionner des pertes de l'ordre de 30% dans les pays en voie de développement, surtout pendant la phase végétative. Manuellement, il faut 2 à 3 sarclages, au démarrage, 2 à 3 semaines après le démarrage et à la montaison. Chimiquement, il faut traiter juste après les semis, avant la levée des plants de sorgho avec un herbicide de prélevé, par exemple Primagram Gold 660, à raison de 2 litres par hectare. Lutte contre les maladies. Les maladies les plus importantes sont les moisissures des graines, la fusariose, le mildiou, le sclérospora sorghi, et la pourriture charbonneuse, Spasloteca sp. Pour lutter contre ces maladies, il faut entre autres traiter les semences avec un mélange insecticide-fongicide qui peut être le Caltiocé, matière active 25% chlorpyrifos éthyl plus 25% tiram WS, à raison de 250 g de produit commercial pour 100 kg de semences ou utiliser les variétés améliorées tolérantes. Lutte contre le striga. Pour combattre le striga, il faudrait semer une variété tolérante en rotation avec des légumineuses, arachides, niébé, soja. Arracher les plants de striga pour les empêcher de fleurir et de produire des graines. Lutte contre les insectes. Les insectes ravageurs sont les foreurs de tiges, les pucerons qui s'attaquent aux feuilles et la cécidomyie, la mouche des fleurs. Les méthodes de lutte contre les insectes sont généralement basées sur des techniques culturales telles que l'élimination des résidus de récolte ou la rotation avec le coton ou des légumineuses. Recolt. Récolter le sorgho lorsque les deux tiers des feuilles de la plante sont jaunes. Casser les tiges et couper les paniculés ou faucher les tiges puis couper les paniculés. Une fois que la récolte est faite, les épis sont étalés pendant 2 à 3 jours au soleil avant de les mettre sur le hangar ou dans le grenier. Activité post-récolte. La récolte destinée pour une utilisation immédiate est laissée sur le hangar. La femme prélève une partie en cas de besoin. Elle la pile pour extraire les grains. D'habitude, c'est la récolte de la femme qui est gérée de cette façon. Par contre, la récolte du mari est mise dans le grenier et sert à faire face aux plus grands problèmes. En effet, pour régler un problème, une partie de la récolte est vendue ou des animaux. À l'approche de la saison des pluies, s'il reste encore beaucoup de mil dans le grenier, les hommes le font.